de la Genèse. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Prions Dieu. Dieu éternel, Père Tout-Puissant, nous te remercions pour la vérité révélée dans ta parole écrite qui nous rend témoignage au sujet de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. On te remercie, Seigneur, aussi pour le témoignage du Saint-Esprit qui a authentifié Christ par de nombreux miracles et prodiges à cause de l'ère de l'Église. On te remercie pour le témoignage audible que tu as rendu lors du baptême d'eau de Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Par-dessus tout, nous te remercions pour le sang de Christ, la preuve suprême que Christ fait toujours ce qui est agréable. Ce précieux sang est celui d'un sacrifice pleinement satisfait pour tous les péchés de tous ceux qui croient et qui croiront ces témoignages rendus à Christ. Nous affirmons que tous ces témoignages sont véridiques et sans faille, et nous confessons que Christ est vraiment le Fils de Dieu et le seul Sauveur, et qu'en croyant en lui, nous avons la vie éternelle. Nous te remercions, ô Dieu, de ce que tu nous as donné la vie éternelle par ta grâce. L'un des fruits de ce don est la joie éternelle. Quel amour merveilleux que tu as envoyé ton Fils pour connaître la tristesse, la souffrance et la mort, et pour nous procurer la joie. Comment te remercier assez? Remplis dès maintenant nos cœurs de la pensée du ciel, précieux Seigneur. Puissions-nous vivre sans les chutes qui gâchent notre vie et qui tuent toute joie terrestre. Seigneur, éloigne de nous ces choses et dirige-nous vers les lieux d'obéissance et de fidélité. Nous te remercions pour la promesse de ta force et de tes soins. Au nom du Christ, le Seigneur Jésus, nous te prions. Amen. Je suis content d'entendre mon frère Serge qui dit ce matin à l'Assemblée que le livre de la Genèse, c'est la base de la vie chrétienne. Et on apprend beaucoup à partir du livre de la Genèse. Et ce matin, encore une fois, pour un troisième message sur la Genèse, sur la création de l'homme et de la femme et la chute, évidemment, eh bien, je reprends ce thème. Et le titre ce matin, ce sont « Les leçons » qui sont apprises dans le jardin d'Éden. Vous savez, l'histoire d'Adam et Ève est très familière si vous posez la question aux gens, vous allez dire, « Ah oh, oui, on connaît ça, Adam et Ève, mais pour y croire, ça, c'est une autre chose. » Mais la majorité des chrétiens y croient. Et parfois, on traite cette histoire-là comme si c'était une fable, une histoire, un conte de fées. Mais ce n'est pas une fable morale. C'est la parole de Dieu. La Genèse, l'histoire de la création, la chute de l'homme, c'est la parole de Dieu. Et elle a tellement plus à nous offrir qu'un simple petit lunch. Ce n'est pas juste un petit lunch, la Genèse. C'est un gros lunch. Et comme Serge a dit, c'est la base. La base des Saintes Écritures qui nous conduit au salut. Le pourquoi. Pourquoi on avait besoin d'être sauvé? Et beaucoup de temps s'est écoulé depuis le Jardin d'Éden, on le sait. Mais les leçons que l'on apprend dans la Genèse sont toujours, toujours les mêmes aujourd'hui. Ça ne change pas. Hein? On dit des fois, plus ça change, plus c'est pareil. Mais c'est la même chose. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est pécheur. Et on n'aurait pas fait mieux que Adam et Ève. Donc, on va découvrir un peu ce matin comment le début de toute chose a affecté notre vie actuelle. Premièrement, la Bible, c'est un livre qui est étonnant. C'est un livre qui nous a été donné par Dieu parce que Dieu veut, c'est-à-dire que nous sachions comment vivre. Et si tu veux apprendre à vivre le quotidien, faire les pas à chaque jour, la parole de Dieu, la Sainte Bible, c'est vraiment le livre par excellence pour apprendre. Ensuite, Dieu veut qu'on sache qui lui est, qui il est. Tu ne trouveras pas nulle part, même s'il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur Dieu, tu n'apprendras pas à connaître Dieu comme dans la Bible. Tu vas apprendre un Dieu parfait. Un Dieu complet, tu n'en as pas besoin d'autre. Ensuite, troisièmement, Dieu veut qu'on sache qu'on a désespérément besoin de lui. Je ne peux pas passer une journée sans Dieu. Je ne peux pas faire face à mon péché sans Dieu. Si je veux trouver la paix, si je veux trouver la joie, qui va me redonner cette paix-là? Qui va me redonner cette joie-là? C'est Dieu. Et Dieu m'est indispensable. La Genèse, qui est le premier livre de la Bible, donne une base pour tout le reste de la parole de Dieu. Et dans les trois premiers chapitres, bien, on apprend des leçons qui sont vitales. Nécessaire à la vie que Dieu veut que l'on apprenne. Donc, le texte que j'ai lu ce matin, Genèse 1, 26 à 31, c'est le récit de la création de Dieu. Et il y a un mot que j'ai dit vers la fin des versets que je lisais. Comment Dieu a trouvé ça, sa création? Hein? Très bon! C'était très bon ce que Dieu avait fait. Il a créé les animaux, il a créé la terre, il a créé tous les astres. Mais quand il est arrivé à l'homme et la femme, il a vu que, waouh, c'était très, très, très beau. Et les êtres humains, quand on regarde cette partie-là de la création, sont séparés de tout le reste de la création. Parce que nous avons été créés à son image. On a été créé à l'image de Dieu. Et il y a trois qualités qui décrivent comment nous portons l'image de Dieu, parce qu'on la porte, cette image-là, en nous. Premièrement, c'est la personnalité. Hein? Dieu, c'est un Dieu personnel. C'est un Dieu, c'est une personne. Dieu, c'est une personne, et chacun de nous avons également une personnalité. C'est pas un morceau de bois, c'est pas une statue en plâtre. C'est une personne, la première personne de la Trinité. Ensuite de ça, il y a la moralité. On a également une compréhension intérieure, c'est-à-dire en dedans de soi, concernant le bien et le mal. Parce que on a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et enfin, spiritualité, nous pouvons nous rapporter à Dieu d'une manière spirituelle. Dieu est un Dieu trois fois saint. Dieu demande qu'on l'adore, qu'on l'aime. Maintenant, il y a plusieurs leçons qui ont été apprises, qui sont apprises dans Genèse. Plusieurs leçons. Et dans le Jardin d'Éden, on va juste se concentrer là, dans le Jardin d'Éden. Les trois premiers chapitres de la Genèse nous enseignent ce qu'on pourrait appeler des principes précieux sur Dieu lui-même. Hein, je t'ai dit tantôt, on peut apprendre à connaître Dieu dans la Bible. Et dans ces trois premiers chapitres-là, bien, ça nous rapporte les avertissements que Dieu a donnés à l'homme concernant la conséquence ou les conséquences du péché. La première chose que j'aimerais qu'on puisse dire, c'est que le Seigneur, c'est un Dieu d'amour. Hein? On le dit souvent, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu juste, oui, c'est un Dieu trois fois saint, mais c'est un Dieu d'amour. On a juste à regarder sa création. Un Dieu d'amour, un Dieu sans amour, n'aurait pas pu faire une si belle création. La beauté, sa générosité. Et tout ça, toutes ces caractéristiques-là sont affichées dans sa création par les soins qu'il a apportés à l'homme et à tout ce qui l'entourait, et que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Il faut y croire. Ce n'est pas juste des paroles en l'air. Dieu pourvoit à tous nos besoins. Dieu prend soin de toi. Dieu est un Dieu de beauté et qui a créé ce qu'il y avait de beau avec tout ce qu'on avait de besoin. Deuxièmement, Dieu veut qu'on soit productif dans notre travail. Je sais que le travail, des fois, ça nous amène des fois à être, lundi matin, ça ne vous tente pas tout. Hein? Mais Dieu veut qu'on soit productif. Productif, c'est-à-dire, si on regarde dans Genèse 2,15, le travail d'Adam c'était quoi? De cultiver le jardin d'Éden. Et ensuite de ça, dans un autre contexte de productivité, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme... Il a dit, je vais lui faire un assistant qui lui convient. Et on voit ça au verset 18 de Genèse 2. Et là, Dieu a créé Ève. Là, ensemble, Adam et Ève, qu'est-ce qu'il y avait à faire? Il y avait à accomplir ce que le Seigneur avait prévu pour eux. Hein? Et c'est encore la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui. Dieu a déjà un plan pour toi. Dieu, il veut que tu accomplisses sa volonté. Il a même dit, peupler la terre. Il y en a qui ont compris le message. Mais Dieu veut qu'on soit productif et non pas rester à rien faire. Il aurait pu dire, tout est beau, tout est parfait, vous êtes dans un endroit idéal, assisez-vous, croisez-vous les jambes, puis hey, let's enjoy life, excusez l'expression anglaise, mais profitons de la vie. Non. Dieu voulait que l'homme et la femme soient productifs. Ensuite de ça, on a un Dieu qui est protecteur. Hein, Dieu nous protège. À tous les soirs, hein, souvent, avant le début de la journée, on demande au Seigneur, protège-nous. Protège ma famille. Le jardin d'Éden était rempli d'arbres fructueux. Et Adam et Ève pouvaient en manger comme ils voulaient. Mais il y a un arbre dans le jardin qui ne pouvait pas. Et Dieu a voulu les protéger du fait de ne pas aller vers cet arbre-là. Il leur a dit, « Mangez pas le fruit de cet arbre-là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Genèse 2, versets 16 et 17. C'est une interdiction, c'est un avertissement. Pourquoi? Es-tu heureux aujourd'hui? Oui, on est heureux parce qu'on est dans le Seigneur. Mais si Adam et Ève n'auraient pas obéi à Dieu, hein? Dieu voulait les protéger de qu'est-ce que des conséquences du péché. Dieu leur a donné le choix de l'aimer lui, de lui obéir. Et parce que Dieu aimait Adam et Ève, eh bien, il les a aussi avertis des conséquences qui sont désastreuses de la désobéissance. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez sûrement. Donc, il y avait une conséquence et Dieu voulait protéger Adam et Ève contre le fait d'aller manger du fruit de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal. Et là, ce qui est arrivé, c'est que Ève, elle a écouté Satan. Et écouter Satan, ça coûte cher. C'est coûteux. Dieu nous donne des principes dans sa parole par lesquels on doit vivre si on veut être en paix, si on veut être heureux. Mais si, comme le premier couple, on écoute la parole ou la voix de Satan, eh bien, on va payer le prix. On va payer le prix. Un prix qui est terrible. Pourquoi? Bien, parce que Satan, c'est un menteur. Le prochain point, c'est ça. Satan, il trompe, il veut te tromper. Satan, il est rusé, il connaît tes faiblesses, il veut que tu sois sur son bord. Et là, il a directement contredit ce que Dieu avait dit en disant, « Vous ne mourrez pas. » Voyons donc, tu ne mourras pas. Dieu a dit que tu étais pour mourir, ben voyons. Eh bien, il y a des milliers d'années qui se sont passées depuis ce temps-là. Le diable n'a pas changé. Il est toujours aussi menteur et il contredit à chaque jour la parole de Dieu. C'est le père du mensonge. Des fois, il va se déguiser en ange de lumière. Faisons attention. Un autre point, c'est que Dieu garde toujours sa parole. Dieu avait averti Adam et Ève que la mort serait le résultat de leur désobéissance. Puis Dieu a gardé sa parole. Il n'a pas changé d'avis. Même si Adam et Ève ne sont pas morts immédiatement, tout de suite, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a eu une mort spirituelle. Une mort intérieure. Lorsqu'ils ont mangé de ce fruit, le fruit interdit. La parole de Dieu elle est aussi vraie aujourd'hui dans nos vies. La minute qu'on pêche, avez-vous déjà remarqué ça? On dirait qu'il y a quelque chose qui part. On dirait que ta communion est comme brisée. Dieu y est rendu loin. C'est ça le problème. C'est que la parole de Dieu, elle est toujours vraie. Et on dépend de cette parole-là. On est dépendant de la parole. Mais si on pêche intérieurement, spirituellement, on est en train de mourir. Et oui, un jour, la mort physique va arriver, qui est la conséquence aussi du péché. Ensuite, on ne peut pas se cacher de Dieu. Ça a été le réflexe d'Adam et Ève, de vouloir se cacher de Dieu. Imaginez-vous. Pensez-vous que dans votre péché, il y a une place que Dieu ne te trouvera pas? Pense pas, hein? Dieu est partout. Après qu'Adam et Ève ont péché, ils ont essayé de se cacher dans les arbres, parmi les arbres. Ils ont entendu la voix de Dieu. Ils ont eu peur. Genèse 3, 8. Mais personne ne peut se cacher de Dieu parce que Dieu est omniscient, omniprésent. Il sait tout, il voit tout, il est partout. Le péché, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça produit la honte. On a honte d'avoir péché et on a le désir de se cacher. On n'est pas capable de faire face à ce Dieu trois fois saint. Mais Dieu nous aime assez. Et c'est pour ça que il faut le dire, Dieu nous aime assez qu'il a envoyé son Fils unique mourir sur la croix afin que nous puissions être pardonnés. Lorsqu'on est devant ce péché-là qui nous hante à chaque jour et qu'on a ce ferme repentir-là, et des fois, ça va prendre peut-être plusieurs fois, mais si on demande à Dieu de nous aider à purifier nos yeux, nos cœurs, nos pensées, à être capable de vaincre. Je lisais un petit passage dans le Pain quotidien, c'était la semaine passée, je crois, où une de ces personnes-là, qui avait été une jeune fille qui a pris de la drogue et puis... en fin de compte, ses parents ont réussi à l'amener dans un endroit où on désintoxe la personne. Et pour un temps, lorsqu'elle est ressortie, ça a bien été. Mais savez-vous ce qui arrive souvent? C'est que l'ancienne gang qu'on se tient avec, c'est pas longtemps qu'eux autres, ils nous retrouvent. Et malheureusement, elle est retombée dans le piège du diable. Et elle est morte d'une overdose. Et l'auteur de ce texte-là disait, « Quand que le malin, le méchant arrive, sauve-toi. Sauve-toi. Peu importe le péché qui vient te hanter, change ton idée, va ailleurs, fais d'autres choses, mais sauve-toi. » Un peu comme Joseph a fait lorsque la femme du pharaon voulait coucher avec. Donc, Dieu a envoyé son Fils unique, afin que nous soyons pardonnés. Un autre point que je vais apporter, c'est que la désobéissance porte toujours avec elle la douleur et la déception. On ne peut pas dire lorsqu'on pêche qu'on est heureux, surtout si on est sauvé. Et le diable a dit à Ève que manger de l'arbre interdit la ferait devenir comme Dieu. Wow! Toute une séduction. Tu vas devenir comme Dieu. Mais elle a vite découvert qu'elle n'avait absolument rien gagné, sauf la honte et la déception. Maintenant, elle et Adam ont été séparés du Seigneur. Hein, leur communion avec Dieu a été séparée et ils ont éprouvé immédiatement ce qu'on appelle la douleur et la souffrance du péché. Ils ont appris que le péché ne satisfait jamais, jamais, jamais. Et peu importe le péché. Vous allez peut-être avoir un petit feeling au début, mais après ça, non. Parce que sans le Seigneur, pour un enfant de Dieu, sans le Seigneur, personne ne peut être heureux à cause de sa désobéissance. Et ensuite vient le regret. Mais le regret n'efface pas la peine du péché. Non. T'as beau regretter, t'as beau être désolé, mais non. Ça efface pas. On a vu que immédiatement après avoir désobéi à Dieu, Adam et Ève ont regretté, bien oui, le péché. D'abord, ils ont ressenti la honte. Ils ont essayé de se couvrir de feuilles de figuier, mais cela n'a pas réglé le problème. Pas du tout. Il n'y avait rien, absolument rien, qu'ils pouvaient faire pour effacer la peine de leur péché. Et cela, peu importe que s'ils étaient désolés ou qu'ils ont essayé de faire amende honorable, ils ne pouvaient pas rien faire de plus. Parce que le péché est là. Et tu as beau faire par toi-même, n'importe quoi, ça ne marche pas. Et là arrivent les conséquences. Des conséquences souvent où on est surpris. Adam et Ève n'avaient connu qu'un environnement parfait. Ils ont été créés dans une atmosphère parfaite et la satisfaction de tous leurs désirs et de tous leurs besoins. Manquait d'absolument rien. Mais après avoir désobéi à Dieu, au Seigneur, leur vie a changé radicalement, de façon inattendue. Hein, là, ça a fait vraiment un 180 degrés. Et bien qu'ils ne sont pas morts immédiatement, ils ont perdu leur innocence et ont été chassés du jardin de Dieu. Même si on ne fait pas l'expérience immédiatement des conséquences ou du jugement de Dieu au moment où on pêche, il va arriver, et parfois d'une manière surprenante, inattendue, une conséquence. Ça vient qu'à nous rattraper. Et pour en rajouter encore, c'est que la peine pour le péché ne peut pas être évitée en blâmant les autres. Qu'est-ce qui a été leur première réaction? Hein? Lorsque Adam et Ève ont été confrontés à Dieu, Adam a tout de suite blâmé Ève. C'est de sa faute à elle. Puis elle a blâmé le serpent. Cependant, Dieu nous tient chacun responsable de notre péché, quel que soit le rôle que l'autre personne a joué. Hein, le gars qui fait un vol de banque, puis celui qui est dans le char qui attend avec le getaway car, il est aussi coupable. C'est pas le temps de blâmer personne, sauf toi. C'est toi qui as commis le péché. Et un autre point que je vais apporter, c'est le désir de plaire aux autres peut être douloureusement douloureusement coûteux. Adam a voulu plaire à Ève en mangeant du fruit interdit. Et ça, ça l'a plongé, ainsi que toute la race humaine, dans le péché. On est tous pécheurs. Et ça lui a coûté, à Adam, la perte de sa maison, de son endroit où il vivait, dans le jardin d'Éden. Vous savez, quand on est tenté de désobéir à Dieu pour plaire à une autre personne, il faut se rappeler ceci, que on ne tiendra pas un jour devant Dieu pour rendre compte de notre propre vie. Et ça fait en sorte que le péché devient coûteux. Ça nous a coûté. Ça a coûté cher au Seigneur. Hein? Il a donné sa vie. Mais ça devient coûteux aussi pour nous, en tant qu'être, en tant que papa humain, Dieu là, aimant, qui ne veut pas que ses enfants détruisent leur vie. Le Seigneur avait averti d'avance Adam et Ève des conséquences de leur désobéissance. Mais après qu'ils ont péché, le Dieu qu'ils avaient seulement connu comme leur bon créateur et fournisseur les a chassés du jardin d'Éden et a posté ce qu'on appelle un chérubin et l'épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. On voit ça dans Genèse 3, 24. Leur choix de pécher leur a tout coûté. Et toute l'humanité en a souffert. Rappelons-nous de ceci. Le péché a toujours des conséquences. Adam et Ève ont ressenti immédiatement les effets du péché. Mais Dieu a permis à Adam de vivre au-delà de l'âge de 900 ans. Il n'a jamais cessé de les aimer. Il n'arrête pas non plus de nous aimer. Il a envoyé son Fils dans le monde pour mourir sur la croix, pour expier le péché de l'humanité. Et quand on place sa foi en Christ, on peut recevoir le pardon de tous nos péchés et avoir une vie qui est changée. Et je termine ici en disant, Dieu a tout créé. Il a tout créé conformément à sa volonté. Il a tout créé en vue de l'homme. Qu'est-ce que ça me fait réfléchir cette semaine? Comment je vais prendre ce que j'ai entendu ce matin puis essayer de soit changer ou d'adapter ma vie à cela? Comment Dieu t'aime-t-il? J'ai déjà pensé à ça. Comment Dieu t'aime-t-il? Comment Dieu te protège-t-il par ses avertissements concernant le péché? Regarde dans la parole de Dieu. Regarde dans la Bible, tu vas voir comment Dieu t'aime, comment Dieu t'avertit contre le péché. Deuxièmement, as-tu déjà ignoré ses avertissements? Tu le fais-tu encore? Je pense que oui, on le fait encore souvent. C'est quoi les conséquences? Qu'est-ce que le péché t'a coûté? Comment est-ce que tu gères le péché dans ta vie? T'es-tu tourné vers Jésus dans la foi? Et as-tu reçu le pardon complet et parfait pour tous tes péchés? Parce que si vous regardez dans Nombre 32, 23, mais si tu ne fais pas ça, si tu ne te repens pas de tes fautes, si tu ne reconnais pas que tu es un pécheur, et que tu ne mets pas ta foi en Jésus, ainsi tu pèches contre l'Éternel, sache que ton péché t'atteindra. C'est sérieux, hein? Mais comme j'ai dit aussi lors des funérailles de Mme Bourbonnais, Il nous est réservé, dans Hébreux 9, 27, de mourir une seule fois. Qu'est-ce qui arrive après? Le purgatoire? Non. Le jugement. C'est fini. Tu vas apparaître devant Dieu et tu vas avoir à rendre compte. Il faut y penser. C'est sérieux. On est là, on dit, « Seigneur, reviens. » Oui, 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 il revient. Es-tu prête? Tes valises sont-tu faites? Et enfin, Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Et je suis donc content que ce n'est pas arrêté là. Parce que Paul a continué à dire, « Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. » En Jésus-Christ, notre Seigneur.